Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Activiste, une nouvelle approche de l'action politique, qui tend cette semaine son micro à deux activistes dont vous connaissez déjà les voix. L'une a été parmi les premières invitées de ce podcast. L'autre en est une habituée, puisqu'elle est l'une des deux animatrices de cette émission. Et oui, cette semaine, c'est pas moi, c'est Esther Meunier qui est dans Activiste, du côté des invités. Bonjour Esther.
Bonjour Clem. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté, j'avoue.
Alors, histoire d'atténuer ton dépaysement de ce côté du micro, est-ce que tu peux présenter la deuxième invitée, s'il te plaît ?
Bien sûr. Bonjour, Léa.
Coucou, Esther.
Léa Castor, qui est ma formidable amie et collaboratrice sur le livre qu'on a sorti en juin, qui s'appelle « Pas prête à se taire ».
Et oui, absolument, on vous reçoit toutes les deux actuellement pour marquer un événement, puisque vous avez publié ensemble un livre, « Pas prête à se taire », que tu viens de citer, Esther. Tu l'as écrit, Léa l'a illustré. Ce livre est publié aux éditions Lapin et il est disponible partout. Bah déjà, félicitations à toutes les deux, bravo.
Merci beaucoup.
Avant de parler de ce projet, on va saisir cette occasion pour poser la sempiternelle question d'introduction à Esther, qui n'y a pas encore répondu. Esther, est-ce que tu te souviens de ta première indignation ?
C'est là où j'ai vraiment l'air d'une clown parce que je pose cette question à longueur d'année et je n'ai jamais réfléchi à ma propre réponse. Donc, même pas en sachant qu'on allait faire cette interview, littéralement, j'ai pas réfléchi. Alors, j'essaye parce que je sais ce qu'on cherche avec cette question en plus. Mais non, je pense que depuis que je suis petite, globalement, j'ai envie de montrer que je suis capable autant que les garçons. Et après, je sais pas si j'ai des moments précis d'indignation. Enfin, je sais même pas si ça m'a construit plus tard ou autre. Mais voilà, je sais que dans la cour de récré en primaire, un jour, par exemple, les garçons avaient décidé que les filles ne pouvaient plus accéder à une certaine partie de la cour par laquelle on accédait avec un petit portillon. Et voilà, je sais que j'avais trouvé ça absolument injuste. Et quand je réfléchis à cette époque-là, je me rends compte que beaucoup de choses, en fait, se tournaient autour de les garçons contre les filles et inversement. Et je ne sais pas si c'est ce qui a vraiment formé ce que je suis devenue par la suite, mais en tout cas, je pense que ça a fait partie des premiers trucs que je trouvais injustes, outre les choses qu'on pouvait voir à la télé et qu'en tant qu'enfant, tu trouves forcément injustes, voilà.
C'est quoi que tu voyais à la télé qui te...
Je sais pas, moi j'ai des parents qui regardaient les journaux, tu vois, l'info, et t'entends toujours parler, je sais pas, des guerres, des catastrophes, des trucs comme ça. Je sais qu'assez vite dans ma vie, ça a été des sujets qui m'ont concernée. Et ce qui est marrant sur ce sujet-là, en fait, j'y pense maintenant que tu me poses la question, c'est que moi, je me souviens pas précisément quelles étaient mes premières indignations, mais mes parents m'ont régulièrement dit qu'ils savent, depuis que je suis gamine, que je serais quelqu'un d'engagé, en gros. Que j'ai toujours eu ce truc un peu vindicatif. Mais moi, j'ai pas vraiment de souvenirs. Je me souviens pas précisément sur quel sujet et pourquoi, mais mes parents m'ont régulièrement dit « Non, mais de toute façon, toi, on savait. Hein. » Voilà.
Pour avoir rencontré les parents d'Esther, c'est quand même assez drôle de les imaginer, du coup. Lui dire « Toi...
» Alors là, il faut nous expliquer. Parce que moi, de ce côté de l'écran, je n'ai pas le visuel. Donc, pourquoi tu dis ça, Léa ?
Bah, parce que j'ai rencontré les parents d'Esther, qui sont des personnes adorables. Et, Et ils étaient super fiers d'Esther et c'était super émouvant en fait de les voir bah, pour la sortie du livre. Et du coup, je trouve ça drôle qu'ils aient déjà eu un regard comme ça sur leur fille et de voir que maintenant elle en est à écrire des livres sur des meufs pas contentes. Voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Hein. Enfin,
coucou,
une
papa
boucle.
Et maman.
C'est vrai que moi, je suis pas surprise de te voir galérer à trouver tes premières indignations parce que je vais livrer un scoop, mais on se connaît. On se connaît depuis plusieurs années. Si les gens ne l'avaient pas déduit, on a travaillé ensemble. Et c'est vrai que moi, au début, je voyais pas forcément en toi quelqu'un d'activiste et de militant, mais je voyais plutôt la bonne élève. Que j'avais aussi, que j'avais chez moi et que dont j'ai eu beaucoup de mal à me défaire. J'ai plutôt eu l'impression que quand on s'est rencontrés, t'étais dans une phase de sortir de cette, laisser un petit peu cette bonne élève sur le bord du chemin et te défaire un petit peu de ça. Mais peut-être que je me trompe.
J'ai toujours été la bonne élève en termes de, c'est vrai que j'ai toujours travaillé pour avoir des bonnes notes, etc. En revanche, dès que j'étais gamine, s'il y avait un problème avec un prof ou autre, c'était moi qu'on envoyait porter réclamation parce que, soi-disant, j'avais les couilles pour le dire, ou voilà, j'aime pas cette expression d'ailleurs, pourquoi je dis les couilles pour le dire, j'avais les ovaires pour le dire. Et même plus tard, au lycée ou autre, j'étais une bonne élève au niveau des notes, mais j'avais mon caractère quand même.
Ça n'a pas changé.
Un peu comme si déjà à l'âge de l'école, t'étais pas prête à te taire face aux injustices.
C'est fou ça, dis donc.
Est-ce que ce titre n'aurait pas été choisi par hasard?
Alors c'est parti, racontez-nous un petit peu la jeunesse de ce projet de livre. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce que vous avez voulu raconter? Comment ça s'est passé?
Alors, la genèse du projet, c'est à la base un challenge d'illustration, Inktober. Qui est en fait un challenge où on doit dessiner un dessin à l'encre par jour. Et en fait, il y a une liste qui est genre internationale, qui on va dire est un peu officielle. Et puis il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui se le sont appropriés, qui ont commencé à faire d'autres listes, dont moi, qui ai commencé à faire une liste sur des féministes en fait. Et en fait, cette année, j'avais décidé de demander à Esther qu'elle soit ma partenaire dans ce challenge, c'est-à-dire que moi je fasse les illustrations et qu'elle fasse le texte qui présenterait ses féministes françaises. Et elle a accepté.
Et c'était une belle aventure et je ne regrette rien.
Ouf.
Tu le disais Léa, le thème de Inktober c'est une liste internationale assez standardisée, mais du coup vous avez choisi de le faire sur le thème des féministes françaises. Alors déjà, d'où est venue l'idée ou plutôt l'envie de s'attaquer à ce thème? Et comment vous en avez choisi 30, c'est ça, 31 en octobre? Comment vous avez fait le choix? Les mauvaises langues diront, est-ce qu'il y a 31 féministes françaises qui méritent d'être dans un livre?
Oh là, il y en a beaucoup plus que ça.
En fait, c'était pas mon idée à la base. J'ai pris cette idée de faire des portraits de féministes. En fait, j'ai suivi une première liste. Qui n'était pas officielle. Mais voilà, en fait, c'était une première liste avec des féministes, du coup, qui étaient essentiellement américaines. Et ça, c'était la première année. Donc, la seconde année, j'ai décidé de faire ma propre liste où j'avais choisi des noms, en fait, de féministes d'un peu partout dans le monde. Sauf que les textes qui accompagnaient, du coup, mes portraits étaient des textes de Wikipédia ou des textes... Enfin, voilà, c'est pas foufou en termes de ce que je pouvais apporter aux gens et même moi, de ce que je pouvais apprendre. Donc, j'ai décidé, la troisième année, de demander à quelqu'un qui sait écrire de faire les textes. pourquoi des Françaises? Parce que, sur le coup, je me suis dit... En vrai, je pense que... Enfin, justement, j'avais fait beaucoup d'Américaines. Je me suis dit, en vrai, en France, je suis sûre qu'on a plein de figures aussi connues et moins connues. Moi-même, j'ai envie d'en apprendre plus. Et je suis sûre qu'on peut trouver des trucs vraiment intéressants. Et voilà, un peu aussi montrer qu'en fait, on a un beau matrimoine, quoi. Donc, autant le mettre en valeur.
On pourra chercher pour mettre dans la liste, dans les sources, éventuellement le nom de l'illustratrice chez qui t'avais pris l'idée à la base. Et ensuite, puisque la deuxième partie de ta question, Clément, c'était sur comment est-ce qu'on a choisi 31 personnes d'abord, 35 au final dans le livre. Ça a été compliqué, hein, on va pas se mentir. D'abord, on a procédé en faisant chacune de notre côté un peu une liste des noms qui nous venaient en tête. On s'était pas mis du tout de date limite en termes de période, de temps. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une liste avec des personnes qui étaient tout à fait contemporaines et d'autres qui avaient vécu il y a plusieurs siècles. Et puis, on s'est astreinte à essayer d'aller chercher... pas que des noms qu'on connaissait et voilà, et à aussi fouiller un peu internet ou des archives ou autres pour trouver des noms de femmes, notamment de femmes racisées, mais pas forcément contemporaines parce qu'elles existent en fait et qu'on voulait les mettre aussi en avant.
Et toujours sur la méthode, parce que j'ai fait une petite boutade en disant voilà, est-ce qu'il y a vraiment 35 féministes qui méritent d'être dans un livre ? En fait, la question sérieuse derrière, c'est, puisqu'on ne les connaît pas, enfin, elles ne sont pas présentes dans les devinettes des papiers d'Apéricube, où elles sont finalement assez peu dans les questions des jeux télévisés ou même au Trial Poursuite, hein, où est-ce que vous êtes allé les chercher ? Parce que j'imagine que si tu googles féministe française, je ne sais pas d'ailleurs ce que tu trouves, jamais essayé de googler ça, mais j'aimerais en savoir un peu plus en fait sur le travail de recherche que vous avez fait pour les identifier et pour mettre en contexte leur action.
En termes de travail de recherche, déjà, donc il y en a quand même pas mal qui sont sortis de nos têtes et des connaissances qu'on avait déjà, mais peut-être parfois sur lesquelles on se disait on connaît pas bien, ou voilà. Enfin, moi je sais que Léa, elle m'a fait découvrir certains profils, y compris contemporains, hein, Caching par exemple, je connaissais pas du tout, voilà. Et pour celles qu'on connaissait pas, je pense, ni l'une ni l'autre, et qu'on a découvertes, tu tires un fil et après, il y a toute la pelote qui vient, en fait. C'est en gros, à partir du moment où... Moi, j'avais Françoise Vergès en tête, et à partir du moment où tu commences un peu à tirer ce fil-là, tu découvres Marie Scondé qui n'est pas dans le livre, mais qui a fait beaucoup de recherches et beaucoup de travail pour mettre en lumière des autrices qu'on connaissait pas, en fait. Donc par exemple Paulette et Jeanne Nardal, sur lesquelles j'avais aussi lu un petit article, donc ça m'avait interpellée d'autant plus, ou encore Suzanne Lacascade, enfin voilà, qui fait des liens comme ça, Lucie Julia, voilà, qui sont toutes des personnes voilà qui viennent de Guadeloupe, ou voilà, et qui ont eu un véritable apport dans le féminisme français, mais pas que. Et oui, en gros, c'est à partir du moment où tu tires un fil, tu commences à découvrir un nom, et puis il y a les autres qui viennent avec, en fait.
Et alors, dans vos recherches, dans les découvertes que vous avez pu faire, est-ce qu'il y a des éléments de biographie qui vous ont surpris, qui vous ont étonné, vous avez découvert que tel ou tel avait participé à tel moment d'histoire? Est-ce que vous avez fait des découvertes qui vous ont marqué?
Oui, forcément. Moi, celle à laquelle je pense direct, c'est Gertie Archimède, qui était une avocate guadeloupéenne, qui en fait, notamment, a aidé en fait Angela Davis quand elle était recherchée par le FBI. Et qui du coup genre l'a aidée en fait dans sa fuite, et Angela Davis a écrit des mots sur elle, enfin comme quoi c'était une héroïne en fait, et qu'elle avait tellement de choses à apprendre de cette femme. Et je me suis dit, c'est quand même dingue, on connaît beaucoup Angela Davis, mais alors cette femme là on la connaît absolument pas, mais absolument pas. Donc c'était assez impressionnant de se dire ouais, en fait il y a des figures comme ça qui... C'était la première femme...
Une des premières femmes députées.
Oui, voilà, une
après
des premières femmes députées
mondiale.
Françaises, donc guadeloupéennes. Et en fait, on la connaît pas, quoi. Et moi, j'avoue que j'en reviens toujours pas de me dire qu'il y a plein de choses comme ça qui ont été complètement effacées. Et je pense que ça a tendance du coup à toujours m'énerver quand je me dis « Et voilà, encore un mec, encore une rue avec un nom de mec, encore une statue avec un gars, et puis des musées, que c'est que des gars, et il y en a marre !» Voilà.
Ouais, non, ça c'est ouf. Ce week-end, pour la petite anecdote, je suis allée visiter Versailles, n'est-ce pas, avant d'avoir 26 ans et de ne plus pouvoir le faire gratuitement. Et je trouve ça violent, en fait, à chaque fois de rentrer dans ces lieux d'histoire et de ne voir que des noms et des figures d'hommes partout. À Versailles, dans le château, il y a genre une pièce qui est consacrée aux femmes. Une sur toutes les pièces du château, qui est quand même genre immense. Et enfin, Je sais pas. Du coup, j'ai pris leurs noms en photo pour les chercher. Donc voilà, on peut aussi trouver des noms en faisant ce genre de trucs, en allant chercher dans les petites notes de bas de page et les choses comme ça. Celles dont on nous parle pas vraiment, mais dont on a écrit le nom en bas, parce que quand même... Mais non, en vrai, moi, j'ai beaucoup de gratitude par rapport aux personnes qui font de la recherche, parce que je pense que c'est elles les premières à vraiment fouiller, à découvrir ces profils et à travailler dessus pour vraiment analyser leur travail, le mettre en valeur et... Et donc voilà, je pense que c'est surtout grâce à ces personnes-là, en fait, que derrière, d'autres peuvent prendre le relais et amplifier ces parcours qui méritent d'être davantage connus, quoi.
C'est sûr. Mais toi, Esther, c'est quoi qui t'a... dans ce que tu as appris
Il y en a beaucoup dans ce que j'ai appris, dans ce
tu
que
m'étonnes.
J'ai appris. des choses qui m'auraient surprise... je connaissais déjà un peu l'histoire de Monique Wittig, par exemple. Mais je m'étais pas rendu compte à quel point ça avait dû être violent pour elle à l'époque. Donc Monique Wittig, pour situer, c'est une féministe donc française qui a beaucoup travaillé notamment sur le système hétéro-patriarcal, qui a écrit La pensée straight, qui est aujourd'hui un énorme classique, mais qui est resté très longtemps en fait assez méconnue en France, parce que Monique Wittig est partie poursuivre son travail de recherche, notamment à ce sujet-là, aux États-Unis. Parce qu'en fait, c'était assez difficile de se faire une place ou de garder sa place dans le mouvement féministe français en tant que lesbienne avec ces positions-là radicales dans les années 70. Et ça, c'est vrai que je pense que je me rendais pas bien compte à quel point il y avait pu avoir des scissions ou des... une forme d'injustice et d'inégalité dans la manière de porter les voix dans ce milieu-là. Et j'ai vraiment bien aimé me plonger un peu plus dans son travail et dans son parcours. Et ça me tenait à cœur de la mettre dans la liste, notamment parce qu'elle a été longtemps invisibilisée, en fait.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte, c'est radicalement apaisé, j'allais dire. Hein. C'est vrai que, par exemple, quand Alice Coffin a écrit un livre sur le génie lesbien pour donner de la place aux femmes, au travail des femmes, à la pensée des femmes, ça passe crème, hein, ça cliffe pas du tout la société. Qu'est-ce qu'on en pense?
Ouais, on va rire jaune en guise de réponse.
C'est un peu ça. Mais cela dit, moi, la différence que je vois, c'est que quand même, je pense qu'Alice Coffin a eu du soutien au niveau des féministes.
Mmh.
De différents féminismes. Bon, sûrement pas toutes. Mais au moins, je pense qu'il y a quand même cette différence avec Monique Wittig, qui était même pas... Enfin, qui en fait faisait partie du MLF, hein, si je dis pas de bêtises. Et qui en fait n'en a plus fait partie, je pense, à cause aussi de ce genre de scission, quoi. Donc, maintenant on est un peu plus groupés.
On croise les doigts pour l'être un peu plus.
Attendez, on va en parler. Puisque ce podcast est une émission qui propose une nouvelle approche de la politique, et j'aimerais savoir si vous considérez que votre livre est politique. Est-ce que la publication de ce livre est une démarche politique?
Oui, je pense que oui, quand même. Je pense que justement, à un moment où on nous dit que c'est bon, ça suffit, les femmes, vous prenez assez de place, et à un moment où tu parlais d'Alice Coffin, on se fait taper dessus quand on dit qu'on ne lit des livres écrits que par des femmes parce qu'on a besoin de nourrir notre imaginaire de ça. Oui, je pense que c'est politique de dire on fait un livre pour parler de femmes, qui n'ont pas voulu se taire, qui ont porté leur voix et leur combat et qui les portent encore, parce qu'il y a quand même beaucoup de contemporaines dans ce livre aussi. Et on prend cette place-là. Et rien que le fait de prendre la place, je pense que c'est politique, oui.
Puis même, je trouve que les personnes qu'on a choisies, quand même, c'était des personnes militantes, enfin, qui le sont toujours d'ailleurs pour certaines. Donc il y avait quand même un propos politique aussi de base dans les profils qu'on a cherchés, qui était... Enfin voilà, parce qu'on aurait pu, voir plus large et se dire justement que ça aurait pu être des scientifiques, ça aurait pu être de tout domaine, et on a quand même plutôt choisi des militantes, en fait, des personnes qui avaient un discours politique.
Oui, tout à fait, on a choisi des personnes qui se sont battues pour leurs droits et pas que pour les leurs d'ailleurs souvent, et c'était la visée qu'on avait. On voulait des féministes, quoi, des personnes qui étaient engagées et qui avaient une parole forte pour l'émancipation, je dirais.
Du coup, j'aimerais bien savoir quelle est la définition que vous faites l'une et l'autre du mot politique. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Attends, Quel honneur.
Ah ouais, super Esther, merci.
Tu la sens, la meuf courageuse qui pose cette question-là vraiment tout le temps et qui est là genre « Donnez-moi vos réponses car je n'en ai pas. »
C'est ce que j'allais dire, c'est pas ton podcast.
Est-ce que je peux aussi balancer parce qu'elle est diplômée de Sciences Po. Sciences politiques.
Ça va là.
Alors, qu'est-ce qui est politique?
Le truc qui me vient, c'est genre « Tout, tout est politique, tout !» Mais pourquoi tout est politique?
Mais je sais pas, genre je me sens un peu biaisée aussi parce que je viens d'une famille qui est très politisée, justement, dans le sens où, voilà, mes parents sont communistes, donc déjà ça menait une couleur assez rouge dans la famille. Et donc j'avais déjà en fait cette vision, je pense depuis toute jeune, que tout était politique, c'est-à-dire que mes parents, la vision qu'ils avaient de leur... leur manière en tout cas d'interagir avec d'autres personnes, leur manière de se comporter, était politique, avait des conséquences, se plaçait dans quelque chose d'assez grand, et, enfin d'assez large. Et du coup, voilà, avec souvent une vision des autres et de comment on se place par rapport à eux, et en termes de droit aussi, je pense, beaucoup. De droit et ouais. Du coup, je pense qu'il y a... Moi, je pense que j'ai toujours eu ce truc-là, même, on va dire, par tradition familiale un peu, qui fait que, ouais, c'est un peu ça. c'est un peu un grand tout. Je pense que pendant longtemps, j'ai essayé de m'en défaire, parce que justement, par opposition à ma famille, il y avait un côté... voilà, bah, typiquement, quand j'ai commencé à me poser des questions sur la féminité, ce que ça voulait dire pour moi, etc., je l'ai pris par un prisme très intime, et en me disant « Non, non, ça concerne que moi ». Je me rappelle très bien de ce moment où mon frère m'a dit genre mais c'est enfin en fait c'est l'intime c'est politique et moi je dis non pas du tout c'est juste intime lâche-moi les baskets. Bon, il se trouve qu'il avait un peu raison, ça m'énerve de le dire. Mais Louis, si tu m'entends, ça t'arrive d'avoir raison, OK. Non mais voilà, en tout cas, j'ai commencé, enfin je pense que j'ai eu un moment à me dire genre non, c'est pas vrai, ce que je fais n'est pas forcément politique. Il se trouve qu'en tant que femme, souvent quand on se bat pour ce qui nous paraît juste et ce qui nous paraît, ouais en fait ce qui nous paraît juste, ben souvent ça devient très politique en fait, malgré nous des fois, hein. On aimerait bien que ce soit juste intime justement, mais en fait non, ça l'est très rarement.
Bien sûr que si, t'as répondu. Je sais pas, je sais à peine ce que je peux ajouter par-dessus. Non, effectivement, moi je pense aussi que la politique elle est partout. C'est pour ça aussi, Clémence, qu'on a démarré ce podcast. C'était parce que justement, on voulait montrer que la politique c'était pas que les ministres et le gouvernement et les députés, etc. Et qu'en fait, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous peut avoir un discours politique, mener des actions politiques et il n'y a pas besoin d'être élu pour ça. Vraiment, effectivement, je pense que ça se loge à la fois dans les grandes structures, dans ce que tu peux faire ou pas faire de ta vie, parce que peut-être qu'à ce moment-là, tu as eu une bourse pour faire tes études alors que sinon tu ne l'aurais pas eu, ou inversement, tu ne l'as pas eu et pourquoi tu ne l'as pas eu. Et en fait, il y a plein d'aspects de nos vies, l'intégralité de nos vies sont régies par ça. L'agencement d'une ville, la manière dont les femmes se sentent en sécurité dans la ville ou pas, c'est aussi politique. Les interactions effectivement intimes, y compris dans la séduction, évidemment, c'est politique. Et pas que en termes de genre, il y a toujours plein de rapports de pouvoir variés qui se jouent là. Et pour moi, voilà, le politique, c'est juste... littéralement, c'est la vie dans la cité. Effectivement, ça régit tous les aspects de nos vies, même si on n'en a pas toujours conscience et même si on n'a pas toujours envie, en fait.
Alors, je vais prendre votre définition du politique. Tout est politique et tout le monde, chacun, chacune d'entre nous a une part de ce pouvoir d'action politique, parce qu'on peut contribuer à la vie de la cité, on peut avoir une influence sur la vie de la cité. Alors, allons-y, vous avez produit un livre qui effectivement... et politique, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir changer, toucher? Sur quoi vous aimeriez pouvoir avoir un pouvoir d'action politique à travers ce livre, à travers cette démarche?
Moi, je voudrais que ces femmes-là finissent dans les programmes scolaires, vraiment. Je voudrais que ces femmes-là et tellement d'autres, qu'on nous apprenne davantage leur histoire. Je voudrais qu'on nous apprenne l'histoire des droits des femmes en France, comme on ne le fait absolument pas. Et qu'on fasse de la place à... pas seulement aux suffragettes, quoi. Et pas seulement aux droit à l'IVG parce que c'est une histoire qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe que ça. Je trouve ça dommage qu'on nous apprenne pas d'où on vient. Et je pense que si on nous disait d'où on vient, qu'on nous expliquait mieux d'où on vient depuis l'école, déjà on se laisserait peut-être moins faire. on aurait peut-être moins besoin d'en chier avant de décider de ne plus se laisser faire en fait.
Ouh là là, ça y est, remontée.
Non mais voilà, donc je pense que si ce livre-là, il peut avoir... si je voulais qu'il ait un effet, ce serait voilà, qu'on nous apprenne davantage notre histoire, en fait, en tant que femme.
Bah, j'avoue que moi, ça me donne... Enfin, j'en parlais tout à l'heure, mais en effet, cette idée de matrimoine et de se dire qu'en effet, on a quand même beaucoup de choses à apprendre sur les femmes qui ont fait notre histoire et qui continuent de la faire. Et je pense que derrière ce travail aussi, il y a une grosse impulsion un peu de sororité et de se dire que, en fait, plus aussi des meufs prendront ce parti de parler d'autres meufs, de choisir ça et de se dire, en fait, c'est ce qu'ils ont fait pendant des siècles, eux. Et du coup, en fait, d'inviter à cette énergie-là, à de se dire qu'on peut se tirer vers le haut, de se dire que, en fait, c'est pas parce que certaines ont été oubliées qu'elles sont oubliées à jamais. Enfin, voilà, on peut continuer à écrire, justement. Et je trouve ça assez motivant dans ce sens-là, de se dire qu'on peut ouvrir aussi à autre chose et de se dire que, voilà, c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça peut pas devenir autrement et que ce serait cool qu'on ait plus de place. Et qu'on arrête de nous dire qu'on en prend déjà trop. Sérieusement. Et rien que de se dire qu'en fait, genre en France, c'est liberté, égalité, fraternité. Je dis, mais en fait, nous, on est où là? Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Et moi, j'aimerais vraiment que ça donne... Bah, que ça soit en gros une petite pierre à cette impulsion-là de se dire... Enfin voilà, faut vraiment qu'on commence à créer ce... Enfin, je pense qu'on a déjà commencé à créer, mais qu'on continue à créer ce sentiment aussi de sororité, justement, de s'entraider et de se dire, voilà, on serre les coudes, quoi.
Et je pense qu'on pourrait ajouter 50 choses, parce qu'il y aurait... Enfin, à mon avis, il y a plein de manières d'utiliser ce livre comme support politique. Moi, une autre manière que je vois, parce qu'on me l'a dit aussi, en me faisant des retours sur le livre, c'est qu'il y a certains... des profils dans ce livre qui effectivement sont des histoires qui sont pas racontées, peu racontées, et qu'on prend conscience à travers ces portraits de la réalité de certaines femmes. Je vais prendre un exemple très précis parce que c'est celui qu'on m'a donné en me faisant un retour. Dans le livre, il y a une personne qui s'appelle Anan Karimi, que j'admire beaucoup aujourd'hui, qui est sociologue, chercheuse, mais qui avant ça a mené différents mouvements de type femmes dans la mosquée, etc. Et en fait, dans son parcours, il y a un moment où elle mentionne... moi, je l'ai interviewée, Anan, pour faire son portrait. Et il y a un moment où elle mentionne qu'en fait, elle a eu une partie de sa vie où elle a arrêté ses études au moment où la loi sur le voile est passée et où elle ne pouvait plus aller à l'école, en gros, en portant son voile. Donc, elle a arrêté ses études et en gros, elle a eu une première partie de sa vie qui n'était pas dans ces mouvements-là. Et c'est plus tard que c'est revenu, etc. Et en fait... Là, typiquement, c'est un exemple où on voit comment le politique, une décision qui était strictement politique, a eu un impact extrêmement important et intime sur cette personne. Et je pense que quand on entend parler des textes de loi à la radio ou dans les journaux et autres, on ne se rend pas toujours compte de la manière dont ça va affecter concrètement le quotidien de milliers de personnes. Et... si ça peut juste rétablir la vérité sur certaines de ces choses-là ou si ça peut juste donner leur perspective à voir, bah franchement, moi, rien que parce qu'on est venu me dire que j'avais pas pensé à ça et maintenant que j'ai lu son parcours, j'ai compris, je suis contente. Et
moi aussi.
C'est aussi juste pour porter... c'était aussi... Enfin, toutes ces femmes, elles ont des discours qui sont différents, qui se complètent et je pense que c'est important... moi j'avais envie de leur donner une plateforme quoi en tout cas.
Bah, je vous rejoins complètement sur ce que vous venez d'expliquer. C'est vrai qu'on manque de ce matrimoine, on manque de cette vision sur d'où on vient. J'allais dire, nous les femmes, globalement, hein, tout ce qui n'est pas des hommes cisgenres hétérosexuels, puisque c'est l'histoire qu'on apprend, c'est essentiellement la leur. Alors, on est où là-dedans ? Bah, dans le masculin universel, mais effectivement, des ouvrages comme le vôtre montrent que ce masculin universel, peut-être qu'il englobe tout le monde, mais il empêche en tout cas de mettre en lumière toutes ces individualités qui contribuent aussi à ce grand tout, à ce grand collectif. Donc pour ma part, en tout cas, je vous remercie énormément pour ce travail. À pas grand chose de lancer une pétition pour que les manuels scolaires incluent les profils de Paprette Aster. Si quelqu'un écoute ce podcast, a envie de s'en charger, lancez donc la pétition, taguez-nous sur les réseaux sociaux. T'inquiète qu'on va relayer ça à balle. Je voudrais revenir au titre de cet ouvrage, ce titre que vous avez choisi, parce que finalement, je trouve que le titre, c'est déjà presque un slogan, c'est déjà presque un slogan politique, et c'est déjà presque un acte de résistance, parce que c'est pas prête à se taire, comme si l'injonction qu'il fallait combattre, c'était celle de rester silencieuse, de rester cachée. C'était votre intention, ou quelle était l'intention derrière ce titre?
Oh oui, c'était plutôt l'intention.
Le petit regard de connivence entre Léa et moi au moment où tu nous dis ça.
Que c'est un slogan. Bah oui, en fait, c'est un slogan de manif. Hein. Donc, en fait, à la base, c'était fière, vénère, pas prête de se taire. Voilà. Donc, on a trouvé ça après avoir regardé quelques affiches de manif, etc. On s'est dit waouh, quand même ça sonne bien. Et puis. Puis en fait, ça traduit vraiment ce qu'on a envie de dire, quoi. C'est-à-dire que en fait, c'est des femmes qui ont parlé et qui se sont battues pour leurs droits. Il y en a eu. On ne les connaît pas, mais il y en a eu. Ça ne les a pas empêchées justement de parler et de se battre. Du coup, il y avait vraiment cette idée d'héritage qui nous plaisait beaucoup. Et puis en fait, c'est exactement ça. C'est en tant que femme, on est plutôt, on nous demande plutôt en général de fermer notre bouche, d'être jolie, tout ça. Et bon, bah, là, on avait clairement des exemples de personnes qui n'ont absolument pas fait ça. Et on avait envie de faire la même chose, en fait, hein, concrètement. Donc, voilà, c'était complètement un slogan. Et...
Oui, c'était un slogan. Et puis, ça recoupait bien cette idée de parole, en fait, qui est hyper centrale dans le livre aussi. C'est-à-dire que dans tous les portraits, il y a beaucoup de citations. Et pour les écrire, j'ai écouté énormément d'interviews, lu beaucoup d'interviews, lu ce qu'elles-mêmes avaient écrit de leurs idées, mais aussi de leur propre vie. J'ai interviewé toutes celles que je pouvais interviewer, c'est-à-dire quasiment la totalité des personnes qui sont vivantes et qui sont présentes dans ce livre. Et en fait, vraiment, c'était important pour nous que le titre traduise le fait qu'elles allaient raconter leur histoire à travers leurs propres mots et leurs propres voix. Le sous-titre du livre, c'est « Portrait de féministes en citation ». Et voilà, elles nous ont confié leurs mots, pour la plupart, pour qu'elles puissent raconter leur vie comme elles l'avaient vécue, et pas seulement à travers d'autres voix qui pourraient les déformer ou autre. Alors évidemment, il y a de la subjectivité, hein, parce que c'est moi qui, in fine, choisis les citations, les agences, mais les textes entrent, etc. Mais ça reste leur parole. Et c'était vraiment important pour nous d'avoir cette démarche d'essayer de leur voler la moins possible, entre guillemets. Donc, pas prête à se taire, c'était aussi ça. C'était aussi, fallait que ça ait un lien avec ce qu'elles ont dit elles-mêmes. Et aussi, comme disait Léa, avec cette dimension d'héritage, puisque même si c'est pas explicité clairement dans le livre, en fait, il y en a plein qui se renvoient la balle d'un siècle à un autre, ou même juste de quelques années à une autre, ou qui sont contemporaines toutes les deux et qui travaillent énormément toutes les deux. Enfin, il y a plein de pères, et plus que de pères, en fait, comme ça, qu'on pourrait faire. Lucie Julia, Gertie Archimède, Rocaille Ayalo et Grace Lee aujourd'hui, Olympe de Gouges, Benoît de Groulx. Olympe de Gouges, c'est sa déclaration universelle des droits des femmes. C'est Benoît de Groulx qui la ressort du fin fond de l'histoire quasiment, je crois, deux siècles plus tard, quoi, après son écriture. Donc voilà, c'était tout ça que le titre portait.
Mais alors justement, est-ce que l'histoire se répète dans un cercle vicieux où chaque nouvelle crise renvoie les femmes à la case départ ou à peine plus loin de la ligne de départ, ou est-ce qu'on progresse vraiment ? Esther, c'est une question que tu connais puisqu'on la pose très régulièrement dans ce podcast. Est-ce que vous avez eu des moments de découragement ? Est-ce que le fait d'avoir produit ce travail vous a confronté à ce découragement ? Si oui, comment vous en êtes sortie ? Sinon, quel est votre secret ?
Ok.
Pas si on posait 4 questions en une, hein, vous aurez remarqué.
On va s'en sortir.
Alors la première question, je me rappelle déjà plus.
Le découragement.
Non mais en gros l'idée c'est voilà, ouais. Est-ce qu'on est...
Et est-ce qu'on a l'impression de tourner en rond en même temps, j'ai lu et écouté autant de choses que Esther quand même, hein, faut le dire. Donc je suis quand même moins documentée. Mais par contre, je suis une personne très optimiste. Donc, moi, j'ai pas l'impression que... J'ai l'impression qu'on avance très, très lentement. Mais j'ai l'impression qu'on avance quand même. Et c'était un peu ce que je te disais tout à l'heure aussi avec Alice Coffin, où je disais, au moins, j'ai l'impression qu'il y a eu un minimum de soutien. Il y a eu quand même d'autres personnes pour dire, non, mais ça va pas, quoi. Enfin, c'est bon, là, on est en 2020, calmez-vous. Donc, de voir des choses comme les Césars aussi, enfin, de voir que ça se réveille dans plein de domaines aussi, de différents, c'est quand même quelque chose, moi, qui me fait plaisir. Typiquement, je travaille actuellement avec le CNRS, donc au niveau des recherches, donc des scientifiques qui font de la recherche dans le numérique, et de voir qu'en fait, il y a une cellule parité, qu'il y a une envie de que ça bouge, qu'on bouge ces lignes, là où il y a très peu de femmes, et de se dire, en fait, dans les sciences aussi, c'est important qu'il y ait des femmes, c'est important qu'il y ait ce regard-là, c'est important qu'on arrête les biais... sexistes en fait. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de personnes conscientes de ces problèmes là bon après voilà, ça rame hein, on est ça rame toujours, mais moi je peux pas m'empêcher de me dire que quand même ça avance et que ça me donne envie d'en faire partie. Et je pense que, justement, quand tu disais dans les solutions, ben, typiquement, de se rassembler, ça fait quand même du bien, quoi. Et typiquement, ce projet-là, entre le fait qu'on ait travaillé à deux avec Esther, qui était déjà... Enfin, on avait déjà envie depuis un moment de travailler ensemble, et je pense qu'on s'est quand même retrouvés très tôt sur notre militantisme quand on était à Mademoiselle, déjà. Et le fait qu'on commence à contacter d'autres féministes, que Esther a interviewé, etc. Mais en fait, de sentir que ben, ces personnes-là aussi étaient intéressées par le projet, trouvaient ça cool, étaient émues pour certaines. Enfin, donc, il y avait quand même un truc aussi de solidarité qui naissait et qui faisait « Ah ouais, on fait pas ça pour rien, en fait. » Enfin, ne serait-ce que pour la personne qui te dit justement « Merci, je suis trop contente d'en faire partie. » Ou c'est trop bien en fait qu'on commence à faire des choses comme ça et que, enfin en tout cas que enfin voilà, de faire partie de ce tout là je pense que ça donne un peu d'engrais, quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais, pour répondre à la question aussi, c'est vrai que je sais pas si l'histoire est cyclique comme tu le disais, en tout cas elle est pas linéaire, je pense. On n'est pas sur une... Voilà, sur une courbe ascendante 100% du temps, ça dépend aussi des régions du monde, ça dépend des périodes. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, hein, sur le fait que, voilà, justement, il y avait ce qu'on appelle le backlash. C'est-à-dire que quand il y a des avancées des droits des femmes, derrière, il y a une sorte de retour de bâton hyper conservateur. De l'ordre en place qui veut se maintenir quelque part. Et c'est triste à dire, mais je pense que c'est assez naturel que ça se passe comme ça. Après, je pense pas que ce soit une fatalité, je pense pas que ce sera indéfini. Je pense, et elles sont nombreuses à l'avoir dit aussi parmi celles qui sont dans le livre, je pense par exemple à Gisèle Halimi, qu'il faudra rester vigilante et qu'effectivement, les droits des femmes sont une des premières choses à sauter en temps de crise. On l'a vu là pendant le Covid, enfin voilà, Najat Vallaud-Belkacem, qui est aussi dans le livre d'ailleurs, a écrit aussi un livre pour expliquer ça. Donc oui, je pense pas que ce soit linéaire, je dirais pas que c'est cyclique non plus et qu'on en est au même point que quand Benoît de Groulx ressort son truc. En fait, on en est au même point que lorsque Olympe de Gouges l'a écrite. Mais c'est clair que voilà, c'est pas un long fleuve tranquille comme chemin. Et ça demande des efforts immenses à beaucoup de gens. Et c'est vrai que face à presque l'obscurantisme qu'on peut voir chez certains, chez certaines aussi, parfois t'as vraiment envie de baisser les bras. Et face à ça, moi ce que j'ai envie de faire, c'est... En fait, pour moi, ce livre, il a aussi un peu été un refuge, hein, honnêtement. Parce que aller s'inspirer des vies de ces personnes-là qui justement n'ont jamais baissé les bras, qui justement ont continué de se battre, qui continuent de se battre aujourd'hui, c'est vraiment hyper régénérant. Le faire avec Léa, effectivement, c'est hyper enthousiasmant. Enfin, on est amis, on s'adore. Quand ça va pas, on est capable de se soutenir toutes les deux. Enfin, voilà quoi, ça permet aussi quand même de... Enfin voilà, on a partagé beaucoup de choses quand même, je pense, dans le processus de création de ce livre. Et franchement, enfin, je suis trop contente de l'avoir fait avec toi, Léa.
Oh, merci.
Globalement, ouais, je dirais qu'il faut aller chercher le positif là où il est, et c'est un peu ce que j'ai comme philosophie aussi. À côté du podcast, j'ai aussi une série de vidéos qui s'appelle Les bonnes nouvelles du féminisme sur ma chaîne YouTube, Esther Reporter. Et précisément, le but de cette série de vidéos, c'est de, une fois par mois, se dire « Ok, je me concentre sur le positif ». Parce que bien sûr que le reste du temps, on passe notre temps à se battre contre le négatif. Mais parfois, en fait, à force de se battre contre le négatif devient du positif, et c'est important de le célébrer parce que bah, on avance, quoi, donc il faut le dire.
Mais toi, justement, qui tiens cette vigie des avancées du féminisme international à travers cette série de vidéos mensuelles, Les bonnes nouvelles du féminisme, est-ce que tu as l'impression que c'est de plus en plus facile de trouver des bonnes nouvelles, ou est-ce que tu as l'impression de devoir faire preuve d'optimisme et d'état d'esprit un peu méthode Coué de « Allez, ça va dans la bonne direction !» et d'aller chercher la moindre petite bonne nouvelle pour illuminer la nuit noire.
Honnêtement, ça dépend des mois. C'est-à-dire, et je pense que ça a aussi beaucoup varié entre depuis la première vidéo de cette série et la dernière. C'est-à-dire qu'au début... En plus, je l'ai sortie la première en mars, il y a donc plus de 2 ans. Et du coup, il s'était passé plein de choses ce mois-là. Parce que voilà, mars, le mois des droits des femmes. Donc je pense que, je sais pas, c'était un moment où il s'était passé plein de choses. Donc au départ, j'avais l'impression que ce serait facile et que finalement, il suffisait de savoir chercher pour les trouver. C'est vrai, en vrai, hein, il suffit de savoir chercher pour les trouver. Mais c'est aussi pas facile tous les jours, et je pense que je suis devenue plus difficile sur ce que je considère être une bonne ou une mauvaise nouvelle, en fait. C'est là où je dirais que peut-être qu'avant, je me satisfaisais, ou j'avais l'impression que ça y est, on était sur des bonnes nouvelles quand on disait « Ah, la première femme à faire ceci ou à faire cela ». Il y en a, franchement, des bonnes nouvelles comme ça, je pourrais en sortir 10 dans le mois. Et c'est vrai que c'est signe qu'on progresse, parce que c'est vrai que ça veut dire que on entre dans des cercles dans lesquels on n'était pas autorisé avant. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est pas structurel, ça, comme changement. C'est genre... Enfin voilà, c'est pas significatif de ce que ça va apporter comme droit pour le reste du monde. Et même si je considère que c'est très important d'avoir des rôles modèles et de briser les plafonds de verre, j'ai de plus en plus de mal à intégrer ce genre de bonnes nouvelles à ma liste, et intégrer plus globalement des bonnes nouvelles que je ne considère pas avoir des effets structurels et qui impacteront l'ensemble des femmes et pas seulement une ou deux d'entre elles, quoi. Donc je pense que dans tous les cas on avance, mais de là à dire qu'on avance de plus en plus vite ou de moins en moins vite, je ne sais pas. Je pense que je suis de plus en plus sceptique malheureusement. Mais c'est pour ça qu'il faut que je continue à faire cet exercice aussi, parce que bah en fait je le fais pour les autres, mais je le fais aussi pour moi, parce que bien sûr qu'en cherchant on trouve des avancées, il y en a tout le temps, c'est juste que on n'en parle pas toujours.
Je vais changer de sujet, mais pas tout à fait, parce que c'est lié. Une des raisons qui maintient aussi les femmes éloignées de la scène politique, on va dire, c'est aussi l'accès aux ressources.
Vous allez comprendre le lien, puisque vous venez de publier à deux un livre qui est vendu au prix de 16 euros, si je ne me trompe pas. Alors, je crois deviner que ce n'est pas comme ça qu'on est autonome financièrement dans la vie. C'est qu'il va falloir publier un livre comme ça par mois, et encore, je ne suis même pas sûre que ça suffise à produire un salaire. Donc j'aimerais savoir un petit peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie, à côté de votre activisme. On va peut-être commencer par toi, Esther, parce que j'ai quelques infos. Donc je sais que tu ne gagnes pas non plus ta vie grâce au podcast qu'on fait ensemble.
Sans blague.
Tu as une chaîne YouTube, et je sais que tu ne gagnes pas non plus ta vie grâce à cette chaîne YouTube. Donc, dans les quelques heures par jour qui te restent pour dormir et manger, entre écrire un livre, faire une chaîne YouTube, un podcast hebdomadaire, qu'est-ce que tu fais de ton temps qui rapporte de quoi payer un loyer ?
Bah, honnêtement, en fait, pendant deux ans et demi, j'ai vécu sur du chômage. Hein. Enfin, pas que, mais globalement, mes indemnités chômage. Que je complétais avec des piges à droite à gauche. Donc des piges, pour les non-journalistes, c'est des articles ou des sujets journalistiques qu'on vend à différents médias. En tant qu'indépendant, tu vas chercher un média pour lui vendre ton sujet, etc. C'est très difficile. Honnêtement, j'ai trouvé cet exercice-là très difficile. Ça fait seulement 6 mois à peu près que ça s'est débloqué et que j'arrive vraiment à le faire. Peut-être aussi que j'avais pas compris comment ça fonctionnait avant ou que j'essayais pas assez, hein, parce que c'était aussi confortable de pouvoir avoir, même si c'était une maigre indemnité chômage post-SMIC, c'était confortable de pouvoir faire ça et de pouvoir consacrer mon temps à ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc voilà, ce genre de choses, des petites missions à droite à gauche, des animations de conférences, du montage, voilà, ce genre de choses pendant à peu près deux ans et demi. Et un changement tout récent dans ma vie qui va probablement affecter la production du reste de ce que je faisais jusque-là, c'est que je viens de commencer à travailler pour un média qui est porté par France TV et la WDR, donc, qui est la télévision publique allemande, pour parler d'environnement aux jeunes. Voilà, donc c'est juste le début, donc je peux pas vraiment dire grand chose. La plateforme existe même pas encore à l'heure où on enregistre ce podcast. Si jamais elle existe à l'heure où il sort, je mettrai le lien dans la description, mais si c'est pas le cas, écoutez, vous viendrez me suivre sur Instagram pour voir où ça en est, parce que je suis même pas sûre d'avoir le droit de partager déjà le nom du truc, mais en tout cas voilà. Jusque-là, c'était beaucoup de chômage. Là, mes droits au chômage se terminaient. Donc, dans tous les cas, il allait falloir que je trouve un autre moyen de subsister, n'est-ce pas ? Car non, un livre, effectivement, ça ne permet pas de manger sur toute l'année. J'avais envie aussi, en fait, de retrouver une équipe, parce que même si c'était génial, ce que j'ai fait pendant ces 2 ans, c'était aussi assez solitaire. Et d'ailleurs, travailler avec Léa m'a fait réaliser à quel point j'aimais travailler avec des gens. Donc voilà, non, je suis très très contente de cette nouvelle étape. Je sais pas trop ce qu'elle me réserve. J'espère que je vais pouvoir continuer à faire les autres projets que j'ai en tête, parce que croyez-moi que j'en ai encore plein. J'espère pouvoir continuer à mener de front à la fois une partie de ce que je faisais avant et ce nouveau travail que j'ai très envie de, dans lequel j'ai très envie de plonger corps et âme. Voilà.
Je voudrais juste préciser, pour que personne ne s'imagine que tu vivais comme une reine au chômage, que comme tu l'as dit, tu étais avant au SMIC, c'est les droits de chômage qui viennent d'un SMIC, donc c'était moins qu'un SMIC à Paris. Donc voilà, je voulais pas que les gens puissent imaginer que tu as fait 2 ans de pacha et que c'était plutôt...
Ah non, moi, pourquoi un palace, 150 mètres carrés, à côté de la tour Eiffel.
Et par ailleurs, j'ai oublié de préciser que tu as une page Patreon et que toutes celles et ceux qui aiment Activiste, aiment te suivre notamment sur Instagram et sur YouTube et qui aiment ton travail, peuvent te soutenir, notamment en contribuant à ton Patreon, parce qu'effectivement, plus tu auras de ressources par ce biais-là et plus tu seras libre du choix de tes sujets, de l'occupation de ton temps et des productions que tu pourras faire. Donc voilà, toutes celles et ceux qui veulent te
Merci
soutenir, qui n'hésitent pas. Et toi, Léa, alors on avait déjà, je pense, eu un peu cette conversation lors du premier épisode qu'on a fait ensemble sur Activiste. Donc, de mémoire, tu es illustratrice, c'est toujours le cas. Et tu gagnes ta vie comme ça.
Et oui, fou, mais oui.
Bravo.
C'est ce qui a changé en fait depuis la dernière fois, parce que je pense que quand on avait fait le premier activiste, je sortais tout juste de... Non, peut-être pas tout juste, je sais plus. Non, ça devait faire un an en fait que j'avais arrêté Mademoiselle, je pense. Je sais plus. Bon, bref, en tout cas, comme Esther, je suis passée par une phase de chômage, n'est-ce pas, avec un 150 mètres carrés. Pas loin de la Tour Eiffel. Voilà. Et je voyais la fin de mes droits arriver et je stressais un peu parce que j'arrivais pas. Parce que j'ai une formation de graphiste aussi, donc je travaille comme graphiste, illustratrice et autrice de bande dessinée. Mais avec même ces trois compétences, j'arrivais pas à avoir un salaire décent, quoi. Et il se trouve que, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, le CNRS m'a contacté et donc j'ai eu un super projet qui m'a permis de souffler, de me dire « Ah, en fait, je vais pouvoir avoir un salaire décent, en effet, pendant 6 mois ». Et j'ai réussi à signer en fait avec une autre maison d'édition pour une bande dessinée sur l'IVG.
Bravo Bis.
Oui, merci. Donc j'ai réussi en fait à avoir des gros projets qui me permettent d'être un peu plus stable plutôt que sinon quand on est en freelance en général c'est des petites missions et c'est compliqué quoi de joindre un peu les deux bouts mais là du coup ça va. Donc je suis vraiment contente pour ça et d'autant plus que c'est sur des sujets en fait qui me tiennent à cœur à chaque fois et c'est assez chouette parce que là j'en suis au stade en effet où du coup les gens qui me contactent sont plutôt intéressés par mon militantisme et donc c'est assez chouette de pouvoir allier les deux quoi.
Et pour te soutenir, on peut te suivre sur Instagram notamment et puis bien sûr se procurer tes ouvrages et tes publications. Donc là, Pas prête à Ster qui est en librairie actuellement, mais tu avais publié donc l'année dernière, quand on avait fait la première interview ensemble, un livre tiré des strips que tu avais commencé, des planches que tu avais commencé à publier sur Mademoiselle, corps à cœur, cœur à corps.
Tout à fait. Et j'ai aussi un Tipeee.
Voilà, j'allais le dire.
En effet, où je partage un peu plus les coulisses en fait de mon travail, donc je suis pas ultra assidue, mais en tout cas c'est des articles un peu plus poussés que sur Insta, où je vais un peu plus parler de comment comment je crée la BD que je suis en train de créer, où je montre un peu plus mes carnets, etc. quoi.
Esther, Léa, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en train de discuter ensemble. On passe un super moment, mais si je continue à vous poser des questions, on va en dire trop sur le livre et je pense que l'idée, c'est plutôt que les gens aillent se le procurer, se l'offrent. Alors, j'ai deux questions avant qu'on se quitte. La première, j'aimerais justement que vous aidiez un petit peu les gens à choisir ce livre pour l'un ou plusieurs de leurs proches. Ce serait qui le proche, l'ami, la personne à qui je peux offrir ce livre, avec quel sentiment, quelle destination je mettrais dans ce cadeau?
Alors, je pense que ça peut vraiment convenir à plein de gens, en fait. C'est ça que je me suis aperçue, notamment à travers la première séance de dédicace qu'on a faite et aussi par les retours des gens. C'est-à-dire que j'ai des amis qui l'ont offert à leur grand-père et il a adoré, des choses comme ça. Et il y a aussi des gens qui l'ont offert à des jeunes filles de 15 ans, Alors je pense que pour des enfants, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'il y a des notions on dit les mots capitalisme, etc. Donc il y a des définitions, hein, on essaie d'expliquer le plus possible. Mais je pense que pour des très jeunes, ça peut être compliqué. Après, à partir de 13, 14, 15 ans, je pense que ça peut devenir intéressant. Et surtout, je pense que c'est un livre pour lequel il peut y avoir plusieurs lectures. Et que si au départ, on va peut-être juste être impressionné par un parcours, par la suite, on en comprendra peut-être plus, quelques années plus tard, l'impact idéologique ou l'aspect politique qu'il y a derrière. Donc... voilà, mais moi je dirais globalement, offrez-le à tout le monde.
Je suis assez d'accord avec Esther.
Non, et c'est même pas juste pour le vendre au plus de gens possible, c'est vraiment parce que je pense que ça peut convenir à plein de gens et donner des visions, ouvrir des horizons auxquels on n'avait pas forcément pensé avant.
Carrément. En fait, justement, pour se dire, pour tous les genres aussi, en fait, c'est pas du tout un bouquin que pour les meufs ou quelque chose comme ça. Au contraire, de se dire, Bah en fait, justement, t'es un mec et tu t'es jamais intéressé au boulot de certaines femmes féministes ou tu t'es jamais dit « Tiens, j'ai jamais lu une nana, c'est fou !» Ben justement, c'est un peu l'occasion de, d'avoir... j'allais dire un annuaire. Peut-être pas quand même, faut pas déconner. Mais en tout cas, c'est un premier pas. Et je pense que... Enfin, en fait, c'est ultra sourcé. Esther a fait un travail de malade aussi pour donner... Déjà, il y a une partie, on va dire, qui est franchement digeste sur les portraits, qui est quand même courte, quoi, comparée à tout ce qu'elle avait, de base.
C'était difficile de faire des choix sur quoi raconter, parfois, hein, je vous le dis. Des fois, j'ai pas tout mis, donc oui, allez voir les sources, allez écouter les interviews. Merci France Culture, au passage, vraiment. Ils ont une mine d'interviews, voilà, y compris de femmes qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant.
Donc voilà, c'est... Enfin... On n'a pas visé quelqu'un en particulier. Justement, je pense que l'idée, c'était d'ouvrir au maximum. Et je pense que ça marche plutôt bien parce que justement, il a ce côté un peu juste digeste de se dire, genre, c'est pas très long, il y a des images, c'est coloré, ouh, c'est joli.
Effectivement, je confirme.
Et en même temps, c'est vénère.
C'est un très bel objet. C'est vraiment un très bel objet. Et je trouve d'ailleurs qu'en vrai, son prix est très, très raisonnable par rapport à la beauté du livre. Aux couleurs, à la mise en page. Enfin, je trouve vraiment que c'est un... En plus d'être très intéressant et d'avoir la portée politique que vous avez très bien expliquée tout à l'heure, en plus, il est très beau.
Trop bien, merci.
Ça, c'est... Voilà, c'est le travail de Léa, le fantastique travail de Léa.
Et en parlant de belles choses, yes, Esther m'a, compris, on a un lot de cartes qui va avec, parce que des gens nous ont dit qu'ils avaient envie d'arracher les pages, donc ne faites pas ça.
N'arrachez pas les pages. Enfin... Il y a désormais des cartes postales que vous pouvez acheter sur le site des éditions Lapin.
Donc, on a 10 cartes qui sont à 10 euros et qui reprennent les portraits. Donc, 10 portraits.
Voilà.
Qui sont très jolis aussi.
Que vous pourrez accrocher chez vous au lieu de déchirer les pages du livre. Ce serait dommage pour la prochaine personne à qui vous voudrez le prêter.
Alors, dernière question. Vous venez de passer toutes les deux au micro des activistes. Parmi toutes les femmes, toutes les féministes que vous avez recherchées pour cet ouvrage, qui vous auriez aimé entendre au micro des activistes ? Plusieurs réponses possibles parce que je ne suis pas cruelle.
On a le droit de dire des personnes mortes.
Alors oui, parce que si tu, déjà des personnes
J'allais
vivantes.
Poser la même question.
Si tu dis des personnes vivantes, déjà on va aller les chercher, hein, pour la saison 3. Et parmi celles qui ne sont plus parmi nous, effectivement, qui vous auriez aimé entendre dans cette interview ?
J'avoue que moi, là, tout de suite, celle qui me vient, c'est Thérèse Claire. Parce que je pense aussi dans le feu du travail, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a fait ce livre en 4 mois quand même avec Esther. Donc elle a écouté énormément d'interviews, etc. Mais moi, il y a plein de moments en fait, où j'ai pas pu et je devais juste me concentrer sur faire mes dessins et je ne sais pas faire deux choses à la fois. Donc je ne sais pas écouter des personnes intelligentes parler et dessiner, donc en général j'écoute plutôt du reggaeton et c'est pas très sympa pour les chanteurs de reggaeton, mais globalement les paroles sont pas ouf, hein, on va pas se mentir. Donc si vous avez des chanteuses de reggaeton qui sont féministes, je prends et globalement voilà, je sais que Thérèse Claire, je pense que c'est j'aurais bien aimé l'entendre et il faudra juste que je regarde les sources d'Esther, voilà, je sais, mais voilà. Je pense que c'est une personne qui avait l'air très inspirante et qui avait l'air d'avoir beaucoup d'opinions et beaucoup de vies différentes. Donc, ça a quelque chose de fascinant pour moi qui n'ai pas eu le temps de vraiment me plonger encore dans son travail.
Ouais, c'est une question difficile. Je pense que forcément, en fait, les réponses qui me viennent en premier, c'est plutôt des personnes qui sont décédées parce que les autres, j'ai pour la plupart eu la chance de leur parler déjà. Donc, il y en a même d'ailleurs plusieurs dont j'ai fait l'interview pour Activiste et je me suis servie de cette interview-là pour le livre. C'est le cas, par exemple, de Françoise Vergès, c'est le cas de Najat Vallaud-Belkacem, enfin, voilà. Aïssa Maïga, enfin, voilà. Donc, il y en a certaines qui ont déjà leur numéro d'activiste. Pour les autres, j'aurais vraiment aimé pouvoir... Je voudrais pouvoir retourner dans le passé et tendre mon micro à Suzanne Lagascade, qui est donc la première femme noire à avoir écrit un roman en France, qui est un roman qu'on qualifie aujourd'hui de prémisse de la négritude. Et c'est vrai que c'est bizarre de se dire qu'il n'y a pas eu tellement de liens par la suite, bah, en fait, parce que son travail a été invisibilisé comme pour le reste. Oui, donc non, Suzanne Lacasade, vraiment pour ça, parce qu'elle a été tellement invisibilisée que je pense qu'elle aurait encore tellement de choses à dire qu'elle n'a pas pu dire à l'époque et qu'elle aurait vraiment mérité qu'on lui tende le micro pourtant. Et aujourd'hui, je dirais plutôt... Oh là là, c'est difficile, il y en a tellement. Moi, il y en a une que j'aimerais beaucoup entendre, c'est Grace Lee. Je voudrais... je pense qu'elle a énormément de choses à dire aussi. Et voilà. Donc, Grace, écoute, ceci est une invitation cordiale et formelle à venir sur le podcast, puisque c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. Voilà.
Moi, je peux refaire une invitation aussi, finalement. Oui. Virginie Despentes.
Oui, non, mais en fait, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'on a toutes envie de les entendre. Et en particulier, il y a aussi bah, forcément celle avec qui moi j'ai pas pu échanger. Virginie Despentes en fait partie. Mmh. Adèle Haenel est aussi oh l'une là d'elles. Là, oui. Et ouais, on a des questions à vous poser.
Ok, Diallo. Mmh.
Voilà.
C'est sûr.
Non, je pense qu'il y aurait, beaucoup de choses à dire avec toutes ces femmes.
Merci beaucoup à toutes les deux. C'était passionnant. On va donc donner rendez-vous à toutes celles et ceux qui nous auront écoutés jusqu'à présent en librairie, évidemment, pour aller se procurer Pas prête à se taire. On peut évidemment le commander sur Internet. Moi, je renvoie souvent les gens vers le site Place des Libraires, mais j'imagine qu'on peut le trouver aussi directement sur le site des éditions Lapin. Et bien sûr, pour toutes celles et ceux qui ne veulent rien rater de votre travail, j'imagine qu'on peut vous suivre sur Instagram, contribuer au Patreon d'Esther, à la page Tipeee de Léa, retrouver Esther sur YouTube. Et puis, on pourra aussi retrouver Esther sur Activiste. Abonnez-vous, suivez l'émission. Je pense qu'on peut dire, Esther, que toi et moi, maintenant, on a trouvé toutes les deux un super job qui nous occupe énormément. Et que du coup, on va peut-être ralentir un petit peu le rythme, mais on a vraiment la ferme intention de continuer ce podcast. Et pour pouvoir le continuer dans les meilleures conditions, on va faire un break. Donc on va se quitter sur cet épisode, mais ce n'est qu'un au revoir. Parce qu'on a la ferme intention de revenir justement en ayant préparé des interviews. Alors si vous aimez Activiste, on a vraiment besoin que vous continuiez à nous soutenir en nous écrivant, en nous proposant des profils, éventuellement en nous mettant en relation avec des activistes que vous voudriez entendre sur ce podcast. Et puis bien sûr en nous suivant sur les réseaux sociaux, donc via nos comptes Instagram et notamment celui de Conquérir le Monde, pour pouvoir garder le contact et qu'on puisse vous informer de la reprise qu'on espère pour la rentrée, pour l'automne, n'est-ce pas ?
Voilà, donc c'est un petit épisode hors série pour conclure la saison 2 et on revient avec la saison 3 d'ici quelques temps.
Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Merci Clem. À toi Clem et merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent.
Oui, merci beaucoup. Voilà.
Merci à vous tous et toutes qui êtes là parce que c'est grâce à vous qu'on continue, c'est pour vous qu'on continue et c'est pour vous qu'on reviendra.